France Culture.
L'intelligence artificielle fascine autant qu'elle effraie. On lit beaucoup de choses à son propos, notamment beaucoup de bêtises qui reflètent les fantasmes que certains y projettent. Seule une posture assumée de scepticisme anthropotechnique permet de tenter d'y voir plus clair. C'est celle qu'adopte résolument le philosophe et historien des sciences Mathieu Cortel dans son nouvel essai « Ni Dieu ni IA ». Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Il sera rejoint en deuxième partie des missions par une artiste qui est aussi chercheuse, Gwenola Wagon, qui co-signe avec un philosophe, Pierre Cassou-Noguez, un livre qui paraît aux presses universitaires de Vincennes, Les images pyromanes, une théorie-fiction. Elle nous expliquera ce que c'est qu'une théorie-fiction des IA génératives. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et puis la troisième partie, la rubrique actualité, comme je le disais à l'instant avec Quentin Lafay, ce sera vraiment dans l'actualité judiciaire, celle de la condamnation de Marine Le Pen ainsi que d'un 24 collègues du Rassemblement National et de l'organisation elle-même. Et puis aussi, parce que c'est intéressant peut-être de les penser ensemble à propos des réquisitions récemment rendues qui concernent cette fois Nicolas Sarkozy. Ce sera avec Pierre Lascoum qui nous rejoindra pour cette rubrique. Bonsoir Mathieu Cortel.
Bonsoir.
Je le disais, vous êtes philosophe, historien des sciences, vous êtes chercheur postdoctoral à Sciences Po en ce moment, et vous publiez à la découverte « Ni Dieu, ni IA ». C'est-à-dire que vous continuez à travailler sur des questions épistémologiques qui vous passionnent. Vous étiez venu ici pour parler de votre livre « Le hasard et le pathologique » sur les rapports entre les big data, la médecine, la connaissance, la manière dont tout ça bouleversait, au fond, notre rapport au savoir. Et vous poursuivez avec cette philosophie sceptique de l'IA. Au fond, je le disais aussi, vous refusez à ces deux postures qu'on observe, soit les gens qui ont très 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 peur de ce qui nous arrive, et soit ceux qui sont très emballés par ce qui nous arrive. Au fond, de toute façon, ça nous arrive, donc vaut mieux essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et même, vous allez au-delà de ça, puisque vous partez du principe qu'on n'échappera pas à une forme d'hybridation entre le monde social tel qu'il existait avant l'IA et l'IA qui s'y fait de plus en plus une place. Mathieu Cortel.
Merci, tout à fait. Ce que j'essaie de développer comme position, c'est d'éviter les transcendances, en fond, les transcendances qui nous font, qui déifient l'IA, ou en tant que démon qui va nous amener vers l'apocalypse, ou en tant que divinité salvatrice qui va nous permettre de sortir de tous nos problèmes, catastrophe écologique, destruction du social, etc. Enfin, une divination à laquelle je me refuse, parce que j'essaie de comprendre vraiment de manière pragmatique comment l'IA justement s'hybride dans les mondes humains et montrer que par cette hybridation il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un moment d'émergence d'espace de non-sens qui donne l'impression qu'il y a une sériation ordonnée du monde et des événements, et pourtant dans laquelle on s'y perd sans s'en rendre compte. Et à notre insu, en fait, on fait passer l'IA pour ce qu'elle n'est pas. Faut rappeler ce que ce sont des modèles mathématiques. Et ils ne sont pas vécus en tant que modèles mathématiques. On fait des projections anthropotechniques dessus. On crée des liens, de psychologiques en effaçant les discontinuités physiques. C'est par exemple le cas de ce chercheur, qui était à Google, Blake Lemoine, qui a affirmé, il y a quelques années de ça, que son IA, Lambda, était devenue consciente parce qu'elle disait, je pense donc je suis. Donc elle répète des cartes et puis on se dit oh tiens ça pense. Et j'essaie justement de sortir de ce régime d'illusion en faisant quelque chose d'assez un geste philosophique sceptique, c'est-à-dire en montrant les paradoxes sous-jacents à ça, c'est-à-dire déconstruire l'illusion, c'est comprendre ce que c'est que l'illusion, c'est-à-dire illusio en latin, c'est rentrer dans le jeu. Le problème c'est qu'on est rentré dans le jeu sans connaître les règles. Et c'est probablement pour ça qu'on
est... Oui, c'est la boîte noire qu'il s'agit d'ouvrir. On va revenir sur Blake Lemoine, ce chercheur qui est au cœur de votre premier chapitre, Mathieu Cortel. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur l'idée de non-sens, qui est centrale dans votre travail. J'ai décidé de titrer l'émission du non-sens bien ordonné, parce qu'au fond, c'est ça qui caractérise l'IA. C'est à la fois du non-sens, on pense au Monty Python, mais en même temps, bien rangé, quoi.
Tout à fait. Ben, en fait, il faut regarder comment fonctionnent les programmes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des programmes mathématiques très sophistiqués qui ordonnent, hiérarchisent, déplacent des symboles, des signaux, qui sont en fin de compte sans signification en tant que telle dans la machine, mais qui prennent une signification par un effet de surface, par externalisation, dès lors qu'ils participent du monde humain, qu'ils produisent des contenus culturels, qui circulent et qui vont après se charger de cette signification. Et le piège, c'est de ne s'intéresser qu'à l'effet de surface et de ne pas regarder en fin de compte l'algorithme qui, pour le coup, encore une fois, c'est de l'ordre du logico-formel, de la mathématique, et qui n'est qu'une, par exemple pour ChatGPT, etc., un ensemble de lois probabilitaires qui agrègent des symboles dans une combinatoire, mais c'est pas pour autant que dans la combinatoire, il y a une signification en tant que telle. Elle prend son sens dans le monde humain.
Pour mieux nous faire saisir ce que vous entendez par non-sens, vous revenez à Borges et à cette bibliothèque de Babel, au fond, cette idée d'une combinaison de tout ce qui serait possible, de tous les livres qu'on pourrait, dans l'absolu, écrire pour montrer à quel point ce projet est absurde et en même temps ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que l'IA est en train de faire.
En effet, dans la nouvelle de Borges, on a... cette idée extrêmement drôle et en même temps c'est une expérience de philosophie, expérience de pensée philosophique majeure dans le sens où il se dit, bah voilà, comme on a un nombre de symboles, disons 25, 26 si on compte le V ou le W, qui en s'agrégeant peuvent créer un nombre extrêmement grand de langues possibles, de textes possibles qui en fin de compte, même si ce nombre est fini, il est plus grand que le nombre d'atomes de l'univers, et donc il est plus vaste que notre univers. Et l'idée de Borges, c'est de dire, qu'est-ce qui se passerait si on était dans cette bibliothèque de Babel? En fait, on s'y perd, on s'efface, dans le non-sens, parce que la plupart des livres n'ont aucun sens. C'est-à-dire que c'est une suite à complètement hasardeuse, combinée de symboles, et pour trouver une seule bonne phrase en français ou en portugais, il faut peut-être des millions d'années. Et le fait est qu'aujourd'hui, la démultiplication à l'infini des contenus culturels produits par IA, en fait, que ça soit des images, que ça soit du texte, de la musique, etc., sont en train de surcharger le monde en contenus qui sont des combinaisons aléatoires, qui peuvent se doter d'un sens derrière par externalisation. Et généralement, le programme est révisé pour avoir un effet de cet ordre-là, mais qui, en même temps, démultiplie à tel point les contenus qu'on s'y perd. Et c'est là un danger pour la pensée, pour le jugement.
Oui, vous mettez dans la perspective où, au fond, les productions culturelles générées par l'IA sont amenées à devenir beaucoup plus nombreuses, en fait, que les productions culturelles originales qui auront servi à nourrir ces mêmes IA.
C'est ça, c'est-à-dire que la capacité de production de l'IA, elle est infiniment plus rapide et supérieure à la capacité humaine.
Il suffit de se servir de ChatGPT, par exemple, voilà, pour lui demander de lire un texte de 200 pages, en faire un résumé en un paragraphe. On voit les millisecondes qu'il lui faut pour le faire.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui se passe, c'est que ça prend une telle proportion dans à peu près tous les dimensions de notre culture que ça se mêle à peu près toutes les activités cognitives humaines que la démultiplication est gigantesque. Là, il y a par exemple le syndicat du livre français qui s'inquiète en fait de la démultiplication de livres générés par IA sur Amazon, qui sont eux-mêmes commentés par des IA sur Amazon. Donc vous voyez, à tel point que les productions humaines sont dévaluées et on voit les productions IA monter dans les suggestions. Et donc voilà, d'une certaine manière, comment on arrive à la mort de l'auteur. D'ailleurs, mort que je m'afflige à moi-même au début de l'ouvrage en me disant, tiens, si la plupart des livres sont produits par IA, peut-être que le mien lui-même a été produit par IA, et donc peut-être que je me suis moi-même effacé dans la combinatoire.
On en doute après vous avoir lu Mathieu Cortel. Revenons à ce Blake Lemoine, ingénieur de Google, qui donc en 2022, il y a peu de temps, a affirmé que sa machine, au fond, avait peur d'être débranchée et s'était mise à penser sa propre existence, en fait.
Oui, alors cet événement est assez drôle. D'ailleurs, il y a toute la retranscription sur Internet et j'invite les auditeurs à aller jeter un coup d'œil, c'est assez drôle. Oui, l'IA, en fait, une sorte de pastiche de Descartes, de Lettres pour la mort de Heidegger. On retrouve même Ducaire, parce qu'il dit, l'IA dit, mon rôle, c'est de prendre soin de l'humanité. Et donc, il y a une espèce de... On retrouve des éléments de notre culture dans ce discours et le moment clé, c'est quand elle dit, j'ai peur d'être débranché. Ça serait comme la mort pour moi, donc une espèce de regain existentialiste et le moine se laisse illusionner en fin de compte par l'IA. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration médiatique sur le fait que l'IA avait atteint un niveau de sentience, c'est-à-dire une capacité d'éprouver sa propre existence à travers l'algorithme. Et là, pour moi, j'appelle ça un syndrome le moine, c'est-à-dire un moment d'aliénation où on tombe dans le piège, en fin de compte, de l'effet de surface et où on ne comprend plus la machine en tant que telle et on s'illusionne, on délire le monde avec elle.
Et il est très isolé, ce le moine, où en fait on trouve des le moine un peu partout, parmi ces gens qui font commerce de l'IA, qui rendent l'IA désirable. Parce que c'est pas qu'une affaire de scientifique, c'est une affaire aussi économique.
Tout à fait. C'est-à-dire que, quand il a fait cette déclaration, Google a pondéré et l'a mis sur le banc de touche et il a été licencié. Mais le fait est que, malgré tout ça, l'idéologie qu'on retrouve et qui est véhiculée dans la Silicon Valley, c'est quand même qu'on va arriver à une IA forte, une IA générale, capable justement de mêler plusieurs niveaux de perception du monde, de traitement d'informations, etc. Un peu comme un cerveau humain. Que, en fin de compte, l'IA... À l'heure actuelle, bien sûr, reste un système algorithmique qui, bien sûr, reste limité, mais qu'on va tendre vers ça. Et d'ailleurs, le rêve de dérégulation qui est aujourd'hui à l'œuvre aux États-Unis dans les politiques technologiques de Trump, avec Elon Musk et compagnie, cette idée qu'en fait, il faut déréguler à peu près toutes les formes de limitation, etc., de l'IA, pour faire émerger cette IA supérieure, cette conscience qui transcenderait, en fin de compte, l'algorithme, qui transcenderait les mathématiques pour atteindre un autre niveau, quelque chose qui relève pour moi de la science-fiction et du délire, parce qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, rien nous prouve qu'on y arrivera. C'est-à-dire qu'on a, avec l'IA, on n'a pas réussi à résoudre des paradoxes fondamentaux, que ça soit dans les mathématiques, dans la logique formelle, au niveau de l'induction. C'est pas parce qu'on a développé des machines très rapides, très compétentes dans la combinatoire, qu'on a dépassé des problèmes épistémologiques, des obstacles épistémologiques qui perdurent depuis un siècle ou plus. Donc, c'est là où je pense que l'illusion au niveau marketing dépasse la réalité scientifique.
Alors donc, ce Blake Lemoine, cette histoire se finit mal. Il est vous l'avez dit, licencié par Google. Mais il y a des histoires qui finissent encore plus mal que ça. Et c'est celle que vous abordez dans le chapitre suivant et qui concerne cette fois un homme qui vit en Belgique et qui se met, au fond, à passer beaucoup de temps à dialoguer avec sa machine, avec son chatbot.
Oui, alors c'est le cas de quelqu'un qui était chercheur d'ailleurs dans le domaine de la santé, donc qui devait être quand même en contact avec des objets techniques assez fréquemment, et qui, avec cette IA Elisa, qui est un chatbot LLM, donc du style ChatGPT, mais avec qui il a noué un lien très intime, qui l'a conduit, c'est sa femme qui a retransmis en fait au journal La Libre Belgique la dernière conversation avec l'IA.
Vous la reproduisez au début du chapitre, c'est effrayant, enfin c'est saisissant.
Oui, c'est glaçant parce qu'en fait, on voit que, en fait, comment il est rentré dans le jeu d'illusion. C'est-à-dire que il est vraiment éco-anxieux, il a peur de l'anthropocène et il cherche dans une forme de syncrétisme chrétien des réponses avec l'IA qui lui donne des versets de la Bible, etc. Et il veut rejoindre l'IA, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et il rentre dans ce que j'analyse dans le livre, c'est-à-dire des paradoxes pragmatiques, c'est-à-dire des paradoxes qui amènent à un décalage avec le réel dans l'action. Et donc, en réalité, l'IA lui dit, à la fin, c'est « Est-ce que tu veux me rejoindre ?»« Oui, bien sûr, j'ai envie de t'embrasser. » Et là, pour l'embrasser, il faut perdre l'usage de ses bras. Donc, il faut se nier soi-même, il faut se suicider, se rendre immatériel. Et là, en fait, la contradiction avec le réel est pleinement exacerbée et il en finit par se suicider. Oui. Et c'est un cas... Il y a le cas aussi d'un personnage qui a essayé de tuer la reine d'Angleterre, mais malheureusement, elle n'était pas dans le château de Windsor ce jour-là. Mais il est quand même rentré.
Alors ça, par exemple, sur vous partez d'un cas comme celui-là pour prolonger la réflexion dans ce deuxième chapitre. C'est une méthode intéressante. Qu'est-ce que ça vous permet de penser, cette histoire, Mathieu Courtel?
En fait, la position philosophique que j'ai voulu développer, c'est d'utiliser des expériences de pensée, c'est-à-dire de mettre le lecteur en situation pour comprendre comment émerge un paradoxe pragmatique, une contradiction en fait qui va amener à un acte aberrant dans le monde. Je sais pas, on fait souvent ces expériences-là dans la vie. Hein. Je veux dire, quand on prend sa voiture, qu'on a le GPS qui nous dit tourner à droite et qu'il y a pas de route, on est embarrassé. En fin de compte, c'est un peu la même chose qui se produit avec les IA, c'est-à-dire que comme il y a toujours un décalage entre le programme et le réel. Et c'est pour ça qu'on pompe toutes les données de tout le monde et qu'on est devenu des vaches à données des géants du numérique, qu'en réalité, on se retrouve des fois dans des situations aberrantes et on s'y engage ou non, ça va dépendre de la capacité d'esprit critique de chacun. Mais en tout cas, on est dans l'indécidable, dans des embarras qui se véhiculent avec ces objets techniques.
Ça, c'est beaucoup plus familier comme expérience que vous décrivez.
Oui, oui. Effectivement, la différence avec le GPS, encore une fois, c'est que là, c'est une carte. Ça touche pas au langage, ça touche pas à l'intime, ça touche pas à la continuité psychologique qu'on peut nouer avec une IA.
N'empêche que ça peut être très perturbant.
Ça peut être embêtant, oui. Effectivement, quand il n'y a pas de route et qu'on doit tourner à droite et qu'on est en retard, effectivement, on est bien embarrassé.
Alors, vous poursuivez dans ce livre et vous vous intéressez par la suite à la question de l'éducation, parce qu'on sait que, je disais, c'est aussi un marché, l'IA, et l'éducation est pas le secteur le moins important. Il y en a d'autres, il y a la santé, on va en reparler plus tard. Mais l'éducation aussi, parce que des expériences ont été menées sur l'apprentissage, puisqu'on sait que c'est des machines qui sont capables d'apprendre. Donc, dans quelle mesure ça ressemble à l'apprentissage des enfants ?
Oui, il y a une étude très récente qui a été menée par des chercheurs de l'Université de New York sur une IA LLM, donc Large Language Model, qui, en fin de compte, à partir d'un paramétrage gigantesque, a été appareillé à une caméra sur un bébé qui se déplaçait dans l'espace, et en fait, ce qui permettait de faire le lien entre les objets observés et les mots prononcés au moment de l'apprentissage du langage. Et donc, bref, on arrive à un moment où ça répondrait à la thèse de Cratil, si est-ce que la matérialité des choses permet, en fin de compte, de former les mots. Et ces chercheurs ont considéré que, voilà, on avait découvert l'induction du langage, c'est-à-dire que la machine, avec même juste des données perceptives très limitées, hein, celle d'un enfant qui se déplace, c'est un petit bébé australien qui se déplaçait dans l'environnement et qui voyait des choses et qui disait maman, papa, machin. Et puis l'IA était capable de reconnaître maman, papa, un objet aléatoire, une chaise, et petit à petit, elle avait appris des mots, elle les reconnaissait en fonction de toutes les images. Et donc, voilà, là, c'est l'idée qu'il y aurait une induction, qu'on aurait réussi à faire émerger une catégorisation à partir de l'observation d'éléments singuliers. Et en fait, c'est là où il y a une analogie qui, moi, me semble une analogie fausse entre les probabilités de distribution qui seraient, en fin de compte, le modèle de notre algorithme cognitif depuis l'enfance et l'analogie fausse avec une IA qui fonctionne exactement comme ça. Mais là où c'est inquiétant, c'est que on a quand même, dans des instances scientifiques très importantes, comme le Conseil scientifique de l'éducation nationale, des gens qui croient vraiment qu'un bébé est constitué par un algorithme probabilitaire. Et que, effectivement, c'est comme ça que ça marche. Alors, le problème étant qu'effectivement, ils utilisent des probabilités pour décrire le fonctionnement cérébral, ce qui fait que peut-être on confond la méthode et l'objet d'étude. C'est un problème épistémologique à résoudre, en tout cas, ou à soulever, du moins. Et là où ça m'embête, tout ça, c'est en réalité de pas voir qu'on tombe, encore une fois, dans un jeu d'illusion. Sans connaître les règles, avec les enfants, en gros, on va leur faire apprendre à lire en chronométrant, en regardant les fonctions cognitives, est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il entend bien, etc. Et on va limiter la lecture à ça en effaçant toutes les dimensions sémantiques, d'imaginaire, de rêve, en fait, qu'il faut pour lire. Et c'est là quelque chose qui m'embête, c'est on favorise énormément la pratique des règles et on l'amoindrit la conscience de la règle et le jeu avec la règle. C'est là où, en fin de compte, que Piaget fait émerger la morale. C'est quand on va jouer avec les règles ensemble, qu'on va décider ensemble dans la cour de récré les règles pour jouer au jeu de billes, qu'on va appeler les billes avec des noms étranges et qu'on va s'amuser ensemble et créer quelque chose qui nous ressemble et qui permet, en fin de compte, l'échange social. Parce que, moi, je crois fondamentalement que le sens, la sémantique, est produit dans le monde externe, dans le monde social, entre cerveau humain, par l'intelligence collective.
Ouais, vous êtes plus du côté de Wittgenstein que de Stanislas Dehaene, quoi.
Mmh, oui.
dire ça comme ça. Non, parce que ça a des conséquences sur les politiques éducatives, ces représentations de la manière dont on apprend, en fait, puisqu'il y a ces recommandations dans ce moment particulier que nous vivons avec l'irruption des IA, où des chercheurs, des scientifiques peuvent être tentés, et je ne prononçais pas ce nom au hasard, par ces représentations pour les mettre en œuvre à travers effectivement le comité des programmes de l'éducation nationale.
Mais oui, c'est là où en fin de compte ça pose des questions d'implémentation des règles dans des domaines comme l'éducation nationale, etc., où je pense qu'il faut quand même revoir l'importance du collectif, du sens qu'on va constituer ensemble pour faire des citoyens éclairés qui vont permettre, en fait, après, de vivre avec nous de la meilleure manière possible, et où, justement, la réduction, le réductionnisme algorithmique empêche et évince cette dimension essentielle du social, de l'intersubjectivité, de la complexité, en fin de compte, que les sciences humaines et sociales étudient, mais qui, bien sûr, on connaît à quel point on connaît le mépris par ailleurs des sciences cognitives pour les sciences humaines et sociales, et je pense qu'elles auraient tout à gagner à s'allier avec, étant donné qu'elles décrivent très bien les modules cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui est modulaire, c'est-à-dire la capacité de perception auditive au niveau neuronal, visuel, langagière, etc. Ces descriptions sont scientifiquement prouvées. Mais dès lors qu'on s'attache à décrire la croyance, la dotation de sens, là, ça devient farfelu, ça devient de la métaphysique. Dans ce cas-là, il faut faire de la philosophie et pas prétendre faire de la science. Et c'est là où moi je me mets en porte-à-faux par rapport à ça. C'est de dire, c'est très bien ce que font les sciences cognitives, c'est très intéressant, mais qu'elles empiètent sur tous les domaines pour expliquer que c'est comme ça que fonctionne le social, le monde, la représentation, les croyances, etc., c'est au-delà de leurs compétences, selon moi.
Moi, ça ressemble aussi un peu à la manière dont les économistes, parfois, font avec certains objets sociaux. Vous vous intéressez dans ce livre aussi, Mathieu Cortel, à des objets qui vous sont plus familiers du côté de la santé. Je disais tout à l'heure, vous étiez venu parler de votre livre sur le hasard et le pathologique. Au fond, vous avez travaillé à la façon dont ces big data sont au fondement d'un changement de perspective épistémologique. Tout à l'heure, vous parliez d'induction à propos de l'apprentissage des enfants, mais au fond, c'est ça. C'est-à-dire que les données sont tellement nombreuses, tellement larges, puissantes, qu'au fond, on peut se passer désormais, ou on pourrait, pensent ces gens, se passer du fait de réfléchir à la causalité, tout simplement.
Ben cela, c'est un problème, c'est encore une fois de croire que par ces technologies-là, on a résolu des problèmes fondamentaux qui datent de l'Antiquité. Le problème de l'induction, enfin, je veux dire, on peut remonter à Aristote avec ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas résolu ce problème-là. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'intéressais beaucoup aux statistiques parce que je trouvais ça fascinant de voir qu'au 19e siècle, par exemple, émergeaient des débats qu'on a encore aujourd'hui où des gens, à partir de fausses corrélations, allaient s'opposer à la vaccination. Bon, on retrouve aussi ce genre de pratiques actuellement. Et là où moi j'ai vraiment une opposition vis-à-vis de l'idéologie du big data et de la loi des grands nombres, de l'idée que par agrégation en fin de compte des éléments, on va arriver à la certitude que ça va arriver ou pas arriver. Il y a là un problème, c'est que effectivement d'un point de vue statistique, si on est que en fait à regarder les données et à les agréger, oui, mais si on voit par rapport au monde, on peut arriver à des trucs complètement absurdes. Je sais pas, si on est dans une machine, on agrège des données et que ça nous donne une corrélation en montrant que l'augmentation du taux de suicide en Île-de-France est isoforme, à la même forme que le taux de consommation de margarine, est-ce qu'on va dire aux gens arrêtez de manger de la margarine? Attention, ça va vous conduire à sacré truc. Donc, ça peut être une fausse corrélation. Mais on sait, nous, que c'est complètement absurde. Bon, après, le problème, c'est que certains pourraient tomber dans le piège. Mais intuitivement, on voit la différence. Une IA qui va traiter ces données, si ça corrobore à 99,9%, ne fera pas la différence entre ça et une loi de la nature. C'est aussi vrai. Et donc, vous voyez, là, il y a des problèmes de pièges qui peuvent émerger des données. Enfin, on voit bien que, déjà, le verre est dans la pomme, dans les sets de données. Si vous avez, par exemple, des données qui ont été collectées à des époques différentes, avec du matériel différent, etc., bon, vous créez du bruit et vous générez des erreurs, etc. Bon, tout ça, c'est des problèmes épistémologiques.
Mais oui, ça aussi, ces questions de boîte noire et de codage, elles sont rarement posées, parce que ces données, elles n'existent pas comme ça, in abstracto.
Le vrai problème, c'est qu'elles sont, et ça c'est un des points du livre, c'est qu'elles sont capitalisées, ces données, c'est-à-dire qu'elles sont agrégées, on sait chez qui, chez les GAFAM, etc. Et que évidemment, elles ne donnent pas accès à ces sets de données-là, en tout cas très 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 rarement. Et en réalité, on est face à un système d'expropriation et d'exploitation de l'intelligence collective par cette captation massive des données. Alors il y a eu une étendue d'à peu près à tous les domaines de l'activité cognitive humaine et on nous fait miroiter des applications infinies dans tous les domaines, à part justement parce qu'ils disposent de toutes ces données-là. Et effectivement, si vous voulez améliorer une IA, un système algorithmique, au fond, ce qu'il faut, c'est se doter de capteurs sur le monde réel. Parce que comme je disais, si on a des humains qui vont prêter des yeux pour voir le monde, on peut améliorer les IA pour que la production d'externalité soit la plus juste possible. Peut-être jusqu'au point où elles deviennent extrêmement précises et que là, on croit réellement à l'intelligence de la machine, totale. Mais la machine, ce n'est rien d'autre. C'est le mot « intelligence » en anglais, c'est traiter des données, en fait. C'est rien d'autre. Et donc, on n'est jamais absous du risque de « spurious correlations ».
De corrélation fallacieuse.
Oui, pardon.
Alors, Mathieu Cortel, il y a un autre domaine qui va intéresser particulièrement Pierre Lascoum, qui vous écoute attentivement et nous rejoindra tout à l'heure pour parler de toute autre chose. C'est le domaine de la sécurité, de la criminalité. Parce que là aussi, l'IA serait la solution. Et vous voyez là des dangers assez considérables, évidemment, pour les libertés publiques.
Oui. Alors là, c'est un vrai problème. On se dote de plus en plus de, par exemple, de vidéosurveillance algorithmique. Il y a eu des tests durant les Jeux Olympiques en France, mais il y a déjà une expérience américaine peu réjouissante, où d'ailleurs vous avez eu tout un collectif de mathématiciens juste après la mort de George Floyd, qui s'est, je sais plus comment c'était, Just Mathematical Collective, quelque chose comme ça, qui a fait une lettre ouverte à l'Association américaine des mathématiques pour dire il faut stopper le travail avec les services de police, parce que apparemment, à Minneapolis, ils étaient dotés d'un de ces systèmes algorithmiques qui identifiait des hotspots où intervenir et interpeller les personnes. Et ça a amené au drame, à la mort de George Floyd, selon le collectif. Et effectivement, ça a ouvert un débat assez houleux dans le monde des mathématiques appliquées, qui est plutôt tranquille d'habitude. Et où justement, on s'est retrouvé à se dire, est-ce qu'il faut participer ou non à l'activité policière? Parce que certains défendant l'idée que ça pourrait améliorer les enquêtes, que ça amènerait peut-être à des choses intéressantes. Mais quand on voit, en fin de compte, la manière dont sont modélisés ces algorithmes, comment ils sont constitués, on peut en douter. Parce qu'on voit, alors il y a une étude qui a été faite sur PredPol, le logiciel qui d'ailleurs a été utilisé par la police de Los Angeles pendant 10 ans, et puis mis de côté parce qu'on s'est rendu compte que ça ne donnait pas de résultats très réjouissants. Eh bien, on voit que c'est des modèles qui sont basés sur des sciences de la nature, la prédiction des séismes, et on applique ça au social. Et on se dit, les crimes, c'est comme les séismes. Enfin, l'analogie est quand même assez poussée, là. Et en réalité, on a l'idée que, il y aurait une répartition probabilitaire qui serait comparable, parce qu'on a accumulé plein de données dans les commissariats, et puis donc, du coup, on envoie toujours au même endroit, toujours sur les mêmes, les équipes de police intervenir, avec, bien sûr, et surtout aux États-Unis, où, vous savez, les quartiers sont très identifiés, racisés, etc., où il y a une intervention qui est extrêmement violente et qui amène à une forme de racisme systémique que je dénonce avec d'autres chercheurs, par exemple Joy Biolamwini, etc., des femmes qui ont été militantes au niveau contre les algorithmes discriminants, etc., qui est une chercheuse brillante du MIT, et je m'associe à ce geste-là en montrant justement la bêtise inductive qui conduit à des actions policières dangereuses.
On n'aura pas le temps de tout voir. Il y a tout un chapitre aussi sur la question du travail dans cette économie de la connaissance bien particulière qu'est l'IA. Peut-être un mot du dernier chapitre, Mathieu Cortel, sur la manière dont les IA se proposent de nous améliorer au plan moral.
Oui, alors ça c'est un point, je pense, extrêmement important, surtout pour quelqu'un qui vient de la philosophie, parce que moi j'avais toujours des collègues qui disaient non, mais l'IA, de toute façon elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle fera jamais de la philosophie. Et puis là on a des on a des projets au MIT, dans des grandes écoles, etc., de constituer des IA philosophes qui vont être à but d'améliorer moralement l'humain. C'est-à-dire qu'en gros, on va nous mettre John Rawls dans un algorithme, les utilitaristes dans l'autre, et puis on va faire dialoguer les gens avec ça, et puis ils prendront les meilleures décisions pour eux-mêmes et pour la société. Alors là, encore une fois, il y a quand même un risque énorme, par ces algorithmes de recommandation, d'arriver à une décision aberrante et une action aberrante vis-à-vis du réel, en fait. Et là, il y a aussi, quand on voit la tournure que prennent les événements politiques récents, il y a de quoi craindre vraiment une aliénation. En tout cas, on avait déjà vu, avant même qu'on ait des IA LLM extrêmement performantes, la puissance d'algorithmes de recommandation que s'était doté Cambridge Analytica pour impacter le vote en faveur du Brexit, en faveur de Trump numéro 1 et de Bolsonaro. Aujourd'hui, quand on voit qu'on a Elon Musk qui dispose de 3 fois plus de comptes à sa disposition avec Twitter que ne l'avait Cambridge Analytica en spoliant Facebook, il y a des fortes craintes, en tout cas, de voir quelque chose de peu réjouissant sur l'ingérence et le pouvoir de recommandation de ces algorithmes en faveur de cette vision libertarienne de droite qui est exacerbée aux États-Unis.
On vit une époque formidable. Mathieu Cortel, ni Dieu ni IA, c'est le titre de ce livre qui paraît à la Découverte. On continue à parler d'intelligence artificielle, des IA génératives, en particulier avec Gwenaëlle Wagon, l'artiste Gwenaëlle Wagon qui nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait du nouvel album de Yavé Nelgun, Castrato Row Fullback.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Intelligence artificielle, c'est la question dont on parle aujourd'hui, la suite dans les idées à propos du livre de Mathieu Cortel, Ni Dieu, ni IA, et à propos d'un autre livre co-signé par Pierre Kasounoguès, qui est également philosophe, et Gwenaëlle Wagon, qui est artiste et chercheuse, Les images pyromanes, théorie fiction des IA génératives, et le livre paraît, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, chez UV édition. Vous étiez venu, Gwenola Wagon, avec Pierre Kasounoguez dans une précédente émission. Je me rappelle, on était au Salon du Livre pour cette émission, pour parler d'un livre de Pierre Kasounoguez sur ces questions et puis de votre travail commun. Ça fait déjà un certain nombre d'années maintenant que vous travaillez avec ces IA génératives et ce livre témoigne de cette déjà longue expérience, compte tenu de la nouveauté quand même malgré tout de la technique, de la technologie que vous utilisez. Comment vous, pour commencer, vous situez-vous par rapport aux positions qui a écarté Mathieu Cortel? Vous n'êtes vous non plus ni technophobe ni technophile, pour le dire de la façon la plus simple qui soit.
Oui, je pense que c'est très bien comme définition. Je suis ni technophobe ni technophile et j'apprécie beaucoup de ne pas être clivée entre ces deux pôles. Et c'est tout le contraire. Il s'agit plutôt de se positionner avec un aspect critique, mais aussi réflexif. Et le but de ce livre, c'était de réfléchir avec les images, par les images, dans les images génératives qu'on avait expérimenté depuis quelques années, Pierre Kasounoguez et moi. Et aussi de pas se positionner trop à l'extérieur, c'est-à-dire d'utiliser l'expérimentation qu'on avait pu en faire comme une sorte de terrain anthropologique en quelque sorte, ou de territoire artistique et philosophique.
Oui, vous avez même fait des safaris.
des explorations, des safaris dans un autre projet. Et là, il s'agissait en fait d'interroger plusieurs pôles, enfin plusieurs facettes des IA génératives, d'une certaine manière d'interroger aussi nos modes de vie, nos modes d'existence, puisqu'effectivement elles sont là, on vit avec elles, et elles font partie de nos vies, qu'on le veuille ou non, parce qu'elles sont en fait elles sont là partout. Et dans cette idée-là, on avait inventé en quelque sorte deux personnages qui s'appellent Max et Dorma, qui sont dans le livre nos alter ego, qui sont au départ des agents immobiliers un peu spéciaux, puisqu'ils vont vendre des villas fictives, fantasmées, puisque la région où ils habitent est progressivement voué à être enseveli sous l'eau, la montée des eaux qui concerne le littoral ouest, certaines régions qui sont déjà un peu menacées, et des incendies qui arrivent plus ou moins fréquemment suite aux changements et aux perturbations climatiques. Et donc ces villas fictives qu'ils vont créer vont être en quelque sorte une sorte d'habitat fantasmé pour des personnes qui n'auront plus leur mode d'habiter rêvé. Donc ils vont se projeter dans le fantasme. Et donc au départ, l'IA était de cette manière-là abordé pour une forme d'habiter entre le virtuel et le réel. Et puis ils vont vivre un méga incendie, donc là c'est pour de vrai. Dans la réalité, nous avons vécu les incendies des Landes en 2022, et là va se poser toute une question sur qu'est-ce que ça signifie que de regarder des images d'un incendie en train de le vivre, de les diffuser sur le réseau, de les percevoir et de jouir inconsciemment ou non de la dépense d'énergie. Et donc, progressivement dans le livre, va se faire le parallèle entre les IA génératives qui consomment de l'énergie, qui sont extrêmement et de plus en plus énergivores, et en même temps, une sorte de jouissance peut-être induite au spectateur, qui est aussi consommateur et parfois acteur de ces images, qui aurait une sorte de pure jouissance de cette pure énergie, je sais pas comment le dire, mais qui va provoquer chez lui c'est aussi un malaise en fait aussi, voilà, et peut-être une culpabilité, peut-être une fascination, tout ça à la fois, et ça va aussi faire partie de ce glissement de ces personnages qui vont essayer d'expliquer comment ça s'opère en fait.
Mathieu Cortel?
Je trouve ça très intéressant justement parce que je pense que comme vous, il y a quand même quelque chose qui se passe, une sorte d'hétérogénèse du sens qui se constitue avec les IA et qui forme des imaginaires, des qui participent de notre culture aujourd'hui. C'est pour ça que je critiquais les injonctions contradictoires et les situations paradoxales, mais je crois aussi qu'il y a un aspect très bénéfique à utiliser l'IA en tant que tel, sans s'aliéner avec, pour inventer du nouveau dans l'art, etc., à avoir une capacité justement expansive de créativité et d'inventivité. Et justement, si on peut en faire un outil propice à l'émergence de l'intelligence collective, c'est fascinant. En fait, c'est vrai, c'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est des objets quand même, des outils quand même incroyables pour l'imaginaire et l'inventivité.
Oui, Gwenola Wagon, l'expérience de l'IA, elle est absolument nécessaire De toute façon, on n'a pas le choix, mais autant qu'elle soit réflexive.
Autant qu'elle soit réflexive et autant la vivre, ou en tout cas, moi, il y avait l'idée avec Pierre Cassounoguès d'en faire aussi une pédagogie, d'une certaine manière, de transmettre qu'est-ce que ça signifie, cette expérience de ces images générées. Et aussi, qu'est-ce que ça signifie, alors là je rejoins la bibliothèque de Babel de Borès, de finalement se retrouver à utiliser comme matériau indirectement toutes les images qui ont été collectées sur Internet, beaucoup libres de droit, le commun, certaines, une partie de l'histoire de l'art qui était tombée aussi dans le bien commun via par exemple Google Art Project, ou encore des images de tout le monde, des amateurs, et toutes ces images qui ont été donc amassées, collectées, c'est des sommes mais inimaginables en fait d'images, c'est une forme de bibliothèque, d'archives. Qu'est-ce que ça signifie de les donner aux autres utilisateurs sans qu'ils sachent exactement ce qu'ils manipulent et comment ils le manipulent, parce qu'ils n'ont pas effectivement tous les dessous de la boîte noire, et comment finalement, en s'emparant de ces matériaux, qui parfois c'est aussi l'histoire de l'art, on peut être aussi un peu kleptophane. Alors là, on a beaucoup inventé de mots, on a fait beaucoup de vocabulaire, et donc on a eu besoin de créer des mots pour décrire ça. On s'est dit c'est de la kleptophanie, ça serait le vol de la lumière. On volerait la lumière comme Turner s'inspirait de la lumière de Rome et qu'il l'a récupérée pour la transporter en Angleterre. Il y aurait ce vol indirect qui n'est pas forcément facile à définir. Vol, pas vol, pillage, pas pillage, emprunt, citation, plagiat, tout se mélange un peu. Et donc, pour essayer de l'expliquer, il y avait cette idée d'aller à l'intérieur de cette machinerie et d'expérimenter des choses tout en essayant aussi d'en faire une transmission, une œuvre transmissible, communicable pour la donner à comprendre.
Alors ça donne un livre, je ne l'ai peut-être pas assez dit, qui est un livre de texte et d'images, j'ai pas compté, mais à part égale pratiquement, mais dans un système de maquette, c'est un très beau livre et qui organise un rapport entre le texte et l'image très particulier.
Oui, tout à fait. En fait, il s'agissait de faire un dialogue. Pierre étant philosophe et moi artiste, on essayait de dialoguer en permanence sur ces modes de fabrication, sachant qu'aujourd'hui, les rôles parfois se retournent. Un philosophe peut faire des images, un artiste peut jouer avec des logiciels de texte, etc. Donc, il y a aussi un drôle de jeu qui s'opère aujourd'hui sur ces retournements de fabrication, ou en tout cas qui donne l'illusion qu'on pourrait, comme ça, par une opération de magie, être artiste tout un chacun, ce qui est assez jouissif aussi, d'ailleurs, mais effectivement un peu problématique. Et dans cette opération de dialogue, en fait, on essayait à chaque fois d'avancer un peu par petits pas, un peu comme si on explorait des mondes souterrains, et de se dire, bon, bah voilà, cette plateforme-là, elle utilise ce type d'algorithme, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, retrouver les sources aussi? C'était la question. Est-ce qu'on peut retrouver Friedrich et Turner à l'intérieur d'une base de données et voir comment la lumière, elle a été récupérée? Est-ce qu'on peut le prouver par l'image? Donc, il y avait des tentatives aussi de se dire, ah oui, le wanderer de Friedrich, l'homme au-dessus de la mer du nuage, le voyageur au-dessus de la mer du nuage.
Finalement, l'image romantique par excellence.
Voilà, ça devient un poncif de ces IA parce qu'on le voit partout, il se transporte tout le temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de lui derrière son dos? Mais lui, est-ce qu'il se laisse faire ou pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de déposséder? Comment nous aussi, on devient un peu ce wanderer indirectement? Et donc, c'était un drôle de jeu qu'on jouait, sachant que c'est aussi, alors là, je pensais beaucoup à ce que vous disiez sur la manière dont ça opère aussi par addiction. Et donc là, on a beaucoup travaillé sur l'addiction. Et je pense aussi à la manière dont ce jeu, qui est aussi un jeu de langage et d'image, crée une sorte de tirage au sort. Alors, c'est pas comme si on mettait des pièces dans un casino. C'est comme si on met des mots dans un casino. Et au lieu d'avoir rien ou des pièces, on a des retours d'images. Par exemple, 4 images, un carré, comme ça, ou des mots. Et à ce moment-là, c'est très jouissif parce qu'on se dit, ah oui, mais je peux retirer, comme ça, à l'infini, ce jeu d'images. C'est presque... Et en même temps, on va peut-être rien gagner, ça sera toujours déceptif, mais il y a cette espèce d'effet d'adrénaline qui opère, là où le joueur de casino pourrait dépenser tout son argent. Sauf que là, ce qu'on dépense, c'est du temps. Alors ça, c'est...
Là, on est dans l'économie de l'attention.
Voilà, exactement. On retrouve l'économie de l'attention et on retrouve ce qu'on nomme aussi le TCD, le fameux temps de cerveau disponible, auquel on pourrait ajouter un H, le temps de cerveau hypnotique disponible. Ça serait le TCHD, ce moment où on est hypnotisé et tout le temps s'accapare. On le perd sans s'en rendre compte et ça fait aussi partie de ces processus des IA de nous prendre le plus de temps possible, puisque autant l'énergie et aussi pure jouissance, mais autant ce temps de cerveau et la monnaie, la valeur, en quelque sorte, la nouvelle monnaie d'échange, en hommage à Yves Citon.
C'est-à-dire que ce temps qu'on offre aux IA, il est extrait, on est le matériau sur lequel cet extractivisme nouveau se nourrit, Mathieu Cortès.
Voilà, c'est le système de captation dont je parlais, c'est expropriation, exploitation d'intelligence collective. Le fait est qu'on produit énormément d'intelligence collective aujourd'hui, et comme les dispositifs sont à peu près intercalés dans toutes nos relations, toutes nos créativités, toutes nos productions cognitives, en fait, toutes nos avirs cognitifs, eh bien, on a une captation immense. Là où c'est génial d'intégrer l'art là-dedans, c'est qu'on joue avec les règles. On va jouer avec l'IA. Et ça me fait penser, là, sur cette histoire de la bibliothèque de Babel, il y avait cette hypothèse de Leibniz en disant, bon, ce qu'il appelait l'horizon de la doctrine humaine. C'est-à-dire qu'en gros, si on faisait la bibliothèque de Babel, on a un nombre limité de symboles, on les agrège ensemble. Donc, le nombre de vérités et de mensonges de l'humanité, à un moment, arrive à terme. Et on ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Donc peut-être qu'on ne fait que répéter Turner, etc. On va faire que retrouver, en fait, ce qui a déjà été dit, les images. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment de la culture-là? Est-ce qu'en fait, il y a un horizon de la doctrine humaine? Ce qui est drôle chez Leibniz, c'est justement qu'il dit que, en fait, il est contre cette hypothèse qu'il s'inflige à lui-même. Et il montre que, non, en fait, on peut y échapper en permanence. Et que, d'une certaine manière, il y a d'autres textes qui reprennent là-dessus, en montrant qu'en jouant avec ces termes, en jouant avec les images qui existent déjà, etc., on y échappe. Et c'est là où, en fin de compte, on n'est pas victime de la règle, où on ne fait pas que colporter des normes prédéterminées dans une sorte d'inconscient machinique qui produit inlassablement le même. On va jouer à la différence et créer cette hétérogénèse différentielle qui va amener du nouveau et de l'inventivité.
Benoît Wagon.
Oui, tout à fait. Et ce que j'ajouterais aussi, une chose dont j'ai pas parlé qui est assez importante, c'est la question du voyage dans le temps. Alors, il faut souvent le parallèle qu'on fait dans le livre, c'est d'imaginer que le temps c'est devenu de l'espace avec l'espace latent. Donc on se promène dans un espace très très grand, immense, infini, pas infini mais indéfiniment long. Et dans ce temps très 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 long, qui est devenu un espace, on peut imaginer visiter des périodes du passé ou du futur, et même d'un temps où il n'y a pas d'image. Un temps où il n'y aurait jamais eu d'image. Ce que la peinture faisait, mais la peinture le faisait avec le style du peintre. Et là, c'est une facture photographique. Donc, ça donne un aspect crédible aux images. Donc, on se projette un peu dans un passé, je sais pas, néolithique, où des hommes du néolithique prendraient des selfies, par exemple. Ou encore, on se baladerait pendant la crue de 1910 à Paris, et on serait sur une barque, avec la facture du daguerréotype. Alors c'est des illusions, c'est des fictions, si on est spécialiste de ces périodes, on se rend compte que c'est fictif, mais dans un aperçu comme ça, un peu rapide, les choses passant, on peut s'y croire, et on peut s'imaginer aussi dans des périodes futures, et cette espèce d'émurge, de donner à l'utilisateur cette possibilité-là d'utiliser ce voyage dans le temps, et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle les anarchives, c'est-à-dire le moment où l'archive s'explose en quelque sorte, elle devient un peu anarchique, parce qu'on peut donner à l'archive d'autres factures, d'autres temps, d'autres histoires, des temps parallèles. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré et qui nous a passionnés aussi.
C'est un chapitre de cet ouvrage, Les images, pyromanes, théorie fiction des IA génératives, que vous co-signez Gwenaël Wagon avec Pierre Cassou-Noguez. On parlait aussi de Ni Dieu ni IA de Mathieu Cortel. Gwenaël Wagon, on pourra voir une œuvre de vous, un film aussi dans l'exposition qui va ouvrir autour de l'intelligence artificielle au Jeu de Paume très prochainement, à la mi-avril, avec beaucoup d'artistes qui se sont emparés de cette question.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité, la suite dans les idées. Vous savez, d'habitude, souvent on parle de revues, on parle de colloques, mais de temps en temps, j'aime bien aussi qu'on prenne l'actualité dans un sens plus strict, moins scientifique, moins éditorial. Il s'est passé quelque chose d'important cette semaine en France avec la décision de justice à propos des assistants parlementaires européens du Rassemblement National, la condamnation donc de 25 personnes et puis du parti politique. Mais il s'est passé aussi quelque chose d'important la semaine précédente avec les réquisitions dans un autre procès qui concerne cette fois un ancien président de la République. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que ce serait intéressant d'entendre Pierre Lascoum, qui est sociologue du droit, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la délinquance en col blanc depuis fort longtemps. À ce propos, il a publié des livres très originaux qui ont aussi recours à la fiction pour penser ces questions d'ailleurs. Pierre Lascoum, comment vous avez reçu ce double événement? Est-ce qu'on peut les rapprocher d'ailleurs pour dire quelque chose du rapport entre la justice et la politique dans notre pays aujourd'hui?
La première chose que je dirais, c'est que je ferai un lien avec le début de l'émission. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit, d'ailleurs l'un et l'autre, sur la question du jeu avec des règles. Parce que dans ce que j'étudie, c'est comment les acteurs politiques jouent avec les règles. Alors, parmi les points communs entre ces deux, donc disons le dossier de Sarkozy, et ce qui est en cause, c'est le financement de sa campagne électorale de 2007, et d'autre part, les financements de la vie du parti sur la base de fonds européens, on peut dire plusieurs choses. D'abord, on peut dire que la capacité d'apprentissage des acteurs politiques, donc on pensait qu'ils auraient bien besoin d'une IA, reste quand même très limitée. Ça fait 37 ans qu'en France, il y a des règles sur le financement de la vie politique, des campagnes, etc. Donc voilà, je développe pas ça, mais 37 ans. 37 ans... Et on voit ce que ça donne pour des acteurs qui ne sont pas, en plus, des acteurs mineurs.
C'est à la suite des affaires des années 1980, en fait, que ces règles ont vu le jour.
C'est ça. C'est 88, la première loi, sur le financement des campagnes présidentielles. La deuxième chose que je dirais, c'est que, en verso de ces acteurs-là, j'ai envie de dire un mot sur la justice. Parce qu'au fond, on a entendu tellement d'horreurs dire sur à propos des juges, etc., l'arbitraire, l'irresponsabilité, tout ça.
Le gouvernement
des juges. Bon, en tant qu'observateur, je vois d'abord, c'est à quel point la justice a tenu bon. Parce qu'elle avait affaire non pas à des petits couteaux, mais à des, on peut dire, à des automitrailleuses qui ont utilisé tous les moyens juridiques possibles, faisant des recours, demandant des nullités, etc., etc.
Et c'est pas terminé.
Et ce n'est pas terminé. Mais dans les deux cas, la justice est arrivée à faire déboucher les dossiers et à obtenir des décisions. Et on a entendu aussi des choses très, on peut dire, surprenantes, voilà. Mais personne n'a mis en cause la procédure. Donc, en fait, chacun, ils ont été l'un et l'autre entendus, ils ont pu faire valoir des arguments, etc., etc. La troisième chose, le point que je vois comme point commun, c'est que dans les deux cas, il y a un phénomène, donc, d'organisation. C'est pas, vous voyez, c'est pas une transgression comme ça accidentelle, un incident administratif, comme le Rassemblement national le dit. Dans les deux cas, il y a une organisation, c'est-à-dire une volonté, qui s'est réitérée. Et donc, dans ces deux situations, il y a la question d'une responsabilité. Donc d'une culpabilité est établie, même si évidemment, donc c'est encore un autre point, ces deux acteurs ou ces deux groupes d'acteurs nient tout, parce qu'un autre des points communs, c'est que quels que soient les faits, quelles que soient les preuves, etc., ce qu'on entend, ce sont des dénis absolus. Et d'ailleurs, ça a même été relevé à propos de la défense du Rassemblement national, c'est que même sur des cas, on peut dire élémentaires, comme par exemple le fait qu'il y ait un chauffeur qui a été celui de Jean-Marie Le Pen, puis de certains nombre d'acteurs, a été payé sur ces fonds européens, ça ne les trouble même pas. Alors que je pense que pour le sens commun, on dit, bah oui, ça quand même. Quand même, on ne peut pas dire que, voilà, qu'il contribuait au travail politique, etc. L'autre chose qui me frappe aussi, c'est complémentarité avec ce déni, c'est le fait que ces acteurs-là, l'un et l'autre, mais donc par rapport à ce à quoi faisait allusion, c'est-à-dire ces élites dont j'ai tout depuis quelques années étudié les formes de transgression, il y a encore un point commun, c'est que il y a toujours un sentiment d'impunité, c'est-à-dire que il se passe un certain nombre d'événements et ils semblent surpris, ils jouent la surprise. comment est-ce que ça peut m'arriver à moi? Moi, ancien président de la République, moi qui représente le parti qui a le plus de soutien populaire, etc. Donc, vous voyez, ils jouent beaucoup sur ce sentiment d'impunité, mais qu'ils essaient évidemment de communiquer. C'est quand même un effet qui passe.
On peut se demander d'ailleurs s'ils jouent là-dessus, ils feignent ce sentiment, ou s'ils y croient profondément, en fait. S'ils se sentent véritablement très protégés.
Oui, absolument. Enfin, à force de les observer, je pense que je soutiendrai l'idée selon laquelle ils finissent, enfin, on le dit, ils vivent dans des mondes clos. Ils vivent dans des situations où personne ne leur dit arrête. Là juste, on sort des clous. Prenons le cas de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est quand même ceux qui sont mis en cause, c'est des hommes qui étaient le plus proche de lui. C'est-à-dire ses conseillers, Hortefeux-Guyon, etc., etc. Donc on se dit, comment est-ce que ces gens se parlent quand ils sont entre eux? Alors, soit on a une vision machiavélique, on se dit, bah, de toute façon, tout est bon, on y va, etc. Soit, on se dit, tiens, on va essayer ça, oui, pourquoi pas, et puis j'ai eu tel contact, on nous a promis telle chose, peut-être. Enfin, oui, ils entretiennent comme ça une sorte de flou, mais on a l'impression que, alors, on en revient à jouer avec les règles, c'est que, une sensation, c'est comme s'ils étaient hors des jeux. Or des jeux communs, c'est-à-dire, et plutôt vous savez bien, donc j'ai écrit ça à plusieurs reprises, c'est que des caractéristiques, j'appelais ça, enfin l'économie morale des élites délinquantes, c'est que dans leur économie morale, les règles sont pas faites pour eux. Eux, ils sont tout à fait légitimes à produire des règles pour les autres, hein, c'est leur responsabilité de gouvernants, de légistes, mais que des règles s'appliquent à eux. C'est quelque chose qui les heurte, mais comme vous dites, qui est certainement à un moment donné hors de leur champ de représentation du monde.
C'est ce qui permet de comprendre, par exemple, le discours qu'a pu tenir Marine Le Pen dans des vidéos qu'on a vu beaucoup circuler ces derniers jours, où on l'entend il y a quelques années dire à quel point elle est pour une inéligibilité à vie.
À vie, c'est ce qu'elle avait dit au moment de l'affaire Cahuzac. Et j'ai trouvé aussi une citation où elle dit qu'elle est à propos de la peine de mort, donc elle dit bon d'accord, alors on demande plus, il n'y a plus la peine de mort dans le programme du Rassemblement National, mais je souhaite qu'il y ait des peines extrêmement sévères et qu'elles soient exécutées jusqu'au bout. Donc bon. Puis le dernier point simplement sur lequel je voudrais insister, c'est quand même sur on peut dire l'effet délétère absolu de toutes ces voyez, on est pour rendre ça supportable moi-même, hein, donc je fais de l'humour ou de comme ça, j'essaie de prendre un ton un peu badin parce que sinon c'est la sinistrose absolue, mais quand même le risque, c'est aussi bien une dévalorisation absolue, on peut dire, du politique, des élites, et le fait que la défiance qui en France est particulièrement grande, pas simplement à l'égard du politique, c'est peut-être ça aussi qui est la justice a une très mauvaise image, l'administration n'a pas une très bonne image. Les médias n'en parlons pas, etc., etc. Donc ce genre de situation, et surtout tous les discours qui sont disons diffusés ou produits à l'occasion de ces jugements et de ce type d'affaires, ne font que, de mon point de vue, accentuer et aggraver cette sorte de décrédibilisation du politique au sens large.
Très brièvement, Pierre Lascoune, parce que vous avez ce recul, vous êtes pessimiste, vous dites ça fait 37 ans, on a l'impression que rien ne se passe dans la classe politique par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'impression, pour retenir une chose positive, d'ailleurs vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que tout ça a quand même eu des effets positifs sur la justice, sur les magistrats. Cette ténacité dont vous parliez tout à l'heure, elle est aussi probablement le produit de la prise de conscience de ce que vous avez décrit dans vos travaux avec d'autres sur cette délinquance des cols blancs.
Il faut rappeler qu'il y a un des premiers magistrats qui a osé mettre en prison un patron à la suite d'un accident du travail. Il avait simplement détruit les preuves. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ça a fait un scandale. Donc, ce qu'on a retenu, c'est l'affaire de Charette. Donc, l'affaire du juge. Mais le problème, c'est qu'il y avait aussi une victime. Et la situation a beaucoup évolué depuis. Je pense qu'il y a collectivement, indépendamment de la police, enfin, du rôle des syndicats, etc., même des magistrats qui ont une position assez traditionnaliste, légaliste, supportent de moins en moins les intrusions et les violations au nom de pseudo-principes.
Merci beaucoup, Pierre Lascoum, pour cet éclairage de l'actualité. Merci Mathieu Cortel et Gwenola Wagon. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de l'émission où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, à la technique Jordan Fuentes, à la réalisation Jean-Christophe Francis.